Plan large.
Plan large.
Jusqu'à 13h.
Entre émotion et évasion. Plan large.
Sur Radio Chablais.
L'entretien de Florian Barbet.
Gaël Gambetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur, écrivain, deuxième roman dont on va parler dans cette émission. Au commencement était le meurtre, une belle somme aux éditions Cousu-Mouche. On va très largement en parler. Le principe de cette émission, c'est un rendez-vous quelque part. Nous sommes aux Pléiades, au-dessus de la Riviera, au-dessus de Montreux, Blonay, Saint-Légier. Qu'est-ce que ce lieu signifie pour vous ?
Alors, je suis né dans la région. J'ai grandi à Blonay, dans la maison de mes parents qui habite toujours, et à l'endroit spécifique où nous sommes, je suis très souvent venu me promener. C'est un lieu qui à la fois m'évoque des souvenirs et qui me permet vraiment de faire le vide quand j'ai besoin de penser à des choses et pourquoi pas à des romans.
Avec ce rendez-vous, vous m'offrez la neige de printemps, hein. Les prairies sont remplies de narcisses, et narcisses protégées de la Riviera, c'est magnifique.
Oui, en effet. Alors, c'est, avouons-le, ce n'était pas prévu, mais ça ajoute du charme à l'endroit.
Mais c'est pas pour ça qu'on est venu. C'est pas les narcisses qui vous attirent. Bon, le rapport à la, je veux vous poser le rapport à la nature, hein, parce qu'on va parler de la nature étonnante que vous mettez en place dans votre roman. Quel est le vôtre? Randonneur, contemplatif, rousseauiste?
Alors, randonneur modeste, mais randonneur, c'est vrai que vraiment, quand j'ai besoin de prendre de la distance, de m'évader ou de rêver, je vais dans la nature. Mais ça peut être une nature tout à fait modeste. Ici, c'est vrai que c'est un lieu où on a de nombreux décors dans un mouchoir de poche. C'est aussi pour ça que je l'aime. Mais globalement, n'importe quel coin de forêt peut me suffire à prendre de la distance, à me plonger, à la fois m'écarter de la vie quotidienne, mais aussi laisser vagabonder mon imagination. Pour moi, c'est très important. Et il m'arrive, par exemple, très souvent d'aller me mettre sur un tronc dans la forêt et de lire un livre. C'est pas forcément uniquement... C'est comme si le contexte me permettait à la fois de mieux profiter de l'histoire que je lisais, mais aussi de m'offrir exactement le cadre qu'il faut pour profiter de ça.
Il y a des livres qu'on a envie de lire à certains endroits, hein. C'est banal, si on est dans la région de Marseille et qu'on a les collines de Marcel Pagnol, peut-être que ses souvenirs d'enfance auront un autre goût, quoi.
Oui, hein, tout à fait.
Bon, on est dans une forêt enchevêtrée là, aux Pléiades, au-dessus de Montreux, et dans votre livre dont on va parler, la nature est très présente, hein, et elle n'est pas amicale, elle est oppressante, on va en parler. C'est une forêt dangereuse, en fait, c'est une nature dangereuse, la nature des premiers temps.
Oui, alors c'est vrai qu'il y a un premier choix que j'ai fait, c'était de ne pas représenter cette famille des premiers hommes dans un décor désertique, comme on peut souvent l'imaginer, aussi par rapport au lieu où ces récits sont...
Bon, c'est vrai, j'ai pas fait mon boulot, hein. On va dire que au commencement était le meurtre, vous nous racontez le premier meurtre de l'humanité, selon le texte sacré, hein, du judéo-christianisme, oui. La Bible, le meurtre, la scène de Caïn et Abel, le meurtre d'Abel, premier meurtre de l'histoire humaine, et vous en faites alors quelque chose, une espèce de somme, une saga autour de cet événement, avec beaucoup d'imagination, beaucoup d'invention. Mais revenons à la nature, dans cette sortie de paradis terrestre, hein, parce que oui. le clan est déjà sorti du paradis, on va y revenir aussi à ça, la nature est hostile.
Oui, et pour moi c'était le rapport entre la nature extérieur et finalement la nature humaine, parce que en sortant du jardin d'Éden, la première famille des hommes va découvrir au fond les sentiments humains, c'est littéralement ça. Et pour moi, il y avait une correspondance très importante entre ces sentiments humains qui peuvent être beaux mais qui peuvent être négatifs, qui peuvent être oppressants, obsédants, et une nature qui est un peu incontrôlable, avec une météo changeante, qui peut générer des blessures, qui peut voir la mortalité. Et ce sont des choses qui me paraissaient extrêmement cohérentes. Et c'est pour ça que j'ai voulu donner à la nature ce rôle-là.
Bon, votre livre a eu plusieurs vertus pour moi. Une de ces vertus a été de me faire lire, relire. J'avais bien dû le lire un jour, le livre de la Genèse. Hein. J'ai lu jusqu'à Abraham à peu près. Et alors, j'en avais la mémoire ou le pressentiment. L'épisode Caïn et Abel, c'est 4 lignes. Hein. Oui. Et vous en faites 500 pages. Qu'est-ce qui vous a pris?
Alors, Le point de départ est très anecdotique. J'avais mon roman précédent, La Reine de Cœur, parle de Guillaume Tell, avec donc la pomme de Guillaume Tell, mais où j'en fais une pomme magique. Et je cherchais, un peu en cherchant des idées d'histoire, j'ai listé toutes les pommes magiques, un peu, ou les pommes célèbres des mythologies.
On voulait construire une œuvre sur la pomme.
Pourquoi pas. Mais je me suis arrêté sur celle du Jardin d'Éden. Et au début, Adam et Ève, sympa. Et c'est vrai que tout d'un coup, l'idée du premier conflit, celui de Caïn et Abel, m'a parlé. Et je me suis dit, je vais tenter d'inventer, parce qu'il y a évidemment des facteurs qui ne sont pas dans la Bible, un développement dramatique qui amènerait au meurtre d'Abel. Et dans une première version du livre, il n'y avait pas du tout la dimension polar, enquête sur ce meurtre. C'était exclusivement le déroulement dramatique. Et après, je me suis dit, avec mes goûts, mes envies, je ne peux pas parler du premier meurtre de l'humanité sans créer un mystère là autour. Et donc, j'ai retravaillé l'œuvre.
Avec une sorte d'enquête. Bon, on va mettre un peu en place les personnages, les principaux en tout cas, parce que vous faites une filiation d'Adam et Ève qui n'est pas non plus dans la Genèse. Hein.
Tout à fait.
Adam et Ève, c'est Caïn, Abel, Seth.
Oui.
Puis ça Cham, peut-être. Alors, et puis ça s'arrête gentiment là. Hein. Alors, vous mettez...
Il y en a beaucoup plus dans la Bible. Et au début, j'aurais voulu être fidèle et utiliser la généalogie indiquée. Le problème, c'est que les
vous
noms
aviez
pour
un
la
peu
plupart...
besoin de personnages.
Ouais, mais les noms sont pour la plupart extrêmement similaires les uns aux autres. Tout simplement, j'avais le sentiment que les lecteurs se seraient perdus si j'avais repris la généalogie de la Bible. Et donc, j'ai puisé aussi des noms. Alors, tous sont des noms qui existent, soit dans la Bible, soit dans des récits, on va dire, connectés ou apocryphes. Mais
j'ai pas fait forcément à cet endroit-là.
Pas
j'ai
forcément
vu des noms
à cet endroit-là.
Qui sont dans les générations suivantes, les fils, les petits-fils d'eux, etc.
C'est exactement ouais. ça. Mais disons, j'avais envie que les noms soient suffisamment différents les uns des autres pour qu'on puisse plus ou moins s'y retrouver.
C'est déjà un peu complexe, hein. C'est pas des noms que... Alors évidemment, Adam, Ève, Caïn, Abel, ça s'arrête gentiment là.
Oui.
On a l'habitude de ces mots-là, de ces noms-là. Les autres sont plus difficiles à intégrer, mais on y arrive très bien parce que vous les installez gentiment avec chacun leur caractère. On va partir du début. Hein. Le premier truc qui m'a frappé dans votre livre, c'est la réhabilitation du serpent. Le serpent, il est là, hein, quand Ève croque la pomme, il est là,
oui.
Mais il incite pas. Hein.
Non.
Il est un peu victime de l'affaire, le serpent.
Tout à fait. Alors moi, ça va dans une direction réfléchie qui était de ne pas donner à Dieu ou au diable le statut d'un personnage agissant. Avouons-le, je ne suis pas croyant, donc ça n'était pas une dimension qui m'intéressait. Je voulais laisser à l'humanité son libre arbitre, et par conséquent, Dieu fait partie des réflexions de l'humanité. L'humanité se positionne par rapport à lui, ou tente de se positionner. C'est presque une invention du conteur de la première famille des hommes. Mais du coup, le diable, en l'occurrence, la notion de mal comme personnage incarné n'est pas vraiment présente, c'est vrai. Par contre, le serpent, pour moi, rejoint le statut de la nature.
La condition humaine suffit à mettre là le mal. Hein. Il n'y a pas besoin
exactement.
Du diable, en fait. Mais il y a une phrase, alors page 55, hein, je l'ai notée, qui dit bien ce que vous venez de dire à propos de Caïn, justement. Hein. Ève lui avait appris à observer la nature, et selon elle, c'est parce qu'Adam n'était plus capable de le faire qu'il commençait à embrasser l'idée de Dieu. C'est-à-dire qu'on a là une des explications que vous écrivez, il y en a d'autres, où on a cette phrase qu'on attribue à Gainsbourg, hein, « Les hommes ont créé Dieu, l'inverse reste à prouver ». C'est un peu votre postulat, quoi.
Oui, dans une certaine mesure, mais j'ai essayé quand même de nuancer les points de vue pour bien montrer... Pour moi, dans ce livre, il n'y a pas vraiment de vérité définitive. Et même si, dans une certaine mesure, je donne à Ève, au final, c'est peut-être pas évident dès le début, un rôle extrêmement important, je veux que le lecteur puisse aussi lui-même prendre parti et finalement décider de sa position par rapport à certaines des données morales de l'histoire, mais aussi par rapport à cette idée de Dieu. Laisser, d'un certain côté, la possibilité à chacun de penser comme il le souhaite.
Bon, moi, je vous le dis, j'ai lu votre livre avec un grand plaisir. Il faut y aller, hein. Il faut entrer. Le monde est évidemment particulier. On est dans une géographie inconnue. D'ailleurs, vous avez un complice, hein, qui vous a fait une petite carte. Parce que la géographie est très importante dans votre récit. On va d'un endroit à l'autre. Ça fait partie de l'enquête policière, finalement, pour savoir qui a tué ou comment s'est déroulé le meurtre d'Abel. Et puis, voilà, vous installez un monde qu'il faut apprivoiser. comme eux, doivent apprivoiser leur monde. Hein. Et puis ensuite, on se laisse prendre par cette enquête à double récit. Hein. Vous aimez bien le cinéma, hein, je le sais. Oui, vous avez du flash-forward et du flashback tout le temps. Et puis avec une police d'écriture différente, ce qui fait qu'on s'y retrouve.
Oui, tout à fait. Alors, pour moi c'était une donnée nécessaire à partir du moment où, dans la première version du livre, j'avais tout le contexte qui amenait au meurtre, mais qu'il ne fallait rien dévoiler d'office. Il fallait un peu commencer au moment du meurtre et revenir en arrière et jongler. Mais très certainement, le cinéma est une influence fondamentale pour une structure comme ça.
Bon, il y a une notion qui m'a amusé aussi. Je parlais du serpent tout à l'heure. C'est aussi le paradis, hein, le jardin d'Éden. On a l'habitude d'avoir cette image d'Adam et Ève chassés du paradis parce que ayant mangé le fruit de la connaissance, donc ayant désobéi à Dieu. Chez vous, c'est pas tellement chassé du paradis, hein, c'est plutôt sauvé du paradis. Qu'est-ce qu'on s'y ennuie dans votre jardin d'Éden?
Alors, c'était un aspect que j'ai trouvé amusant, c'est que en général, dans toutes les histoires finalement de monde parallèle, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. La découverte du monde parallèle implique une plongée dans l'aventure. Et là, c'était le contraire absolu, en fait. Le retour dans le jardin d'Éden implique effectivement une forme d'ennui, mais une forme d'ennui susceptible peut-être de sauver l'humanité, justement des affres de la nature qu'on a dans notre monde. Et c'était cette ambivalence qui était pour moi la thématique centrale de l'histoire.
C'est la condition humaine. Vous avez un formidable livre sur la condition humaine, hein. On en parlera dans la deuxième partie de cette émission, mais finalement le paradis, le jardin permet la vie éternelle, mais on en a l'intuition. La vie éternelle, c'est insupportable, c'est l'ennui. S'il n'y a pas la fin, comment jouir du présent, quoi.
Exactement, tout à fait. Mais je dois admettre que il y a surtout le personnage de Cain qui, lui, va penser que la vie dans le jardin vaut mieux que la vie sur Terre, justement pour s'éviter non seulement, évidemment, le bonheur, mais surtout s'éviter les malheurs. Et ça génère un peu toute l'ambivalence. Et pour moi, c'était important de donner à chacun de ces personnages leur point de vue sur cette question-là, finalement. Et c'est probablement pour ça que le livre est devenu si long, parce qu'il y avait beaucoup à dire.
Bon, Adam et Ève sortent du paradis. Ils installent l'humanité. Ils sont les parents des premiers hommes. On va faire connaissance avec quelques-uns de leurs enfants dans la deuxième partie de cette émission. Et ces premiers humains qui découvrent la misère de leur condition.